ساعات مضت ولم ينجلي فضاء فندق تاج محل قبلة الأثرياء والأجانب في مومباي.
Un gruppo di amici uniti da una singolare passione si appresta a vivere una calda domenica d'estate decisamente fuori dal comune.
عاصمة اقتصادية للهند التي تتسرب إلى الخارج قليلا وفي الداخل رهائن لم تحدد هويتهم.
Les médias nous l'assurent, nous baignons dans la terreur. Une terreur issue d'un prétendu choc des civilisations, une dramaturgie dans laquelle on nous rejoue le temps des croisades, des guerres saintes et des reconquêtes. À ce choc des civilisations, l'écrivain Amar Alacous substitue pourtant l'idée de malentendu, un malentendu qui pourrait même s'avérer naturel, voire constructif. Mais pour qu'il y ait malentendu, il faut des malentendants. Dans cette cacophonie des va-t-en-guerre, qui est devenu sourd? Sans doute celui qui ne veut point entendre, qui se claquemure dans ses certitudes et se prive du désir de l'autre. Aujourd'hui, l'espace méditerranéen retentit des échos assourdis des conflits de l'Orient et le silence assourdissant de l'Europe sur les questions de culture et d'échange d'idées fait craindre que de nouveau des peuples frères se retrouvent à se mettre en joue les uns les autres bêtement. Désir de guerre, espoir de paix, la revue La Pensée de Midi a consacré son dernier numéro à combattre cette bêtise et à analyser les raisons et les intérêts qui motivent les fanatismes et les intolérances. Nous allons, dans cette émission, essayer de prolonger cette réflexion sur les conflits, ouverts ou latents, qui couvent en Méditerranée, en compagnie de Daniel Lindenberg, essayiste, historien et journaliste. Et puis, Michel Peraldi, anthropologue, que nous joindrons tout à l'heure par téléphone à Rabat. Dans son éditorial à ce dernier numéro de La Pensée de Midi, Thierry Fabre citait l'écrivain allemand Ernst Jünger, auteur des Orages d'acier. C'est la guerre qui a fait des hommes et de leur temps ce qu'ils sont. Il s'agissait de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence, mais ne pourrait-on pas ajouter de manière un peu provocante, c'est la guerre qui nous fait et c'est la paix qui nous brise, en voyant comment la fin des guerres coloniales en Afrique du Nord ou en Orient a créé une situation tellement instable et ingérable qu'elle ne peut que générer à terme de nouveaux conflits. Daniel Lindenberg, la guerre a fait l'Europe, la paix a brisé le Maghreb, l'Afrique et le Moyen-Orient ?
Écoutez, je crois d'abord que la référence à Ernst Jünger est tout à fait légitime, et il a écrit en particulier un livre très important, La guerre comme expérience intérieure, puisqu'il était en même temps guerrier philosophe, et donc en français ça a été traduit d'ailleurs La guerre bizarrement La guerre notre mère. Il faut bien voir que chez lui il y a une valorisation de la guerre auquel personnellement en tout cas je n'adhère pas, et donc ceci explique aussi que par rapport à la question que vous me posez, je pense pas que ça soit effectivement le fait que les guerres se soient arrêtées, que la guerre soit finie, qui a engendré les catastrophes auxquelles nous assistons actuellement. C'est pas forcément d'ailleurs des catastrophes ponctuelles, hein. Il y a des régimes par exemple qui sont catastrophiques, il y a des états de société qui le sont aussi. Je crois que c'est plutôt ce qui a suivi la guerre, la façon effectivement d'assurer la paix, qui pose problème. Et au contraire, je pense, devançant peut-être des questions que vous allez certainement me poser, je crois qu'il y a une instrumentalisation au contraire de la mémoire de la guerre qui ne va pas. Par exemple, si on prend l'Algérie, où là vraiment c'est au paroxysme. parce que en Algérie, il y a eu une vraie guerre d'indépendance. Bon, au Maroc, en Tunisie, il y a eu une lutte armée de quelques mois, de quelques années, mais qui n'a pas ravagé la société au même titre. Mais en Algérie, effectivement, le pouvoir se sert de la mémoire de la guerre pour éviter un certain nombre de questions que les citoyens de ce pays peuvent poser. Ça me paraît évident. C'est ça le vrai problème, ou en tout cas c'est une partie du vrai problème, tel qu'en tout cas moi je le vois. Hein.
Nous parlons à l'instant de ces guerres de décolonisation, mais peut-être un des facteurs de continuité de ces guerres, c'est qu'on ne les a pas appelées guerres à l'époque. On parlait des événements d'Algérie.
Oui, alors en ce qui concerne l'Algérie, ce n'est que tout récemment que le Parlement français a reconnu le fait qu'il s'agissait d'une guerre, parce que ça ne touche pas d'ailleurs que le peuple algérien. Le fait qu'on n'a pas reconnu, c'est même pour les combattants d'Algérie, à qui on a longtemps dénié finalement le vrai statut d'ancien combattant, ou les gens qui étaient morts, ils ne savaient pas exactement pourquoi ils étaient morts, parce que finalement cette guerre s'est achevée au fond par un désaveu officiel de cette guerre, puisque finalement les dernières années de la guerre d'Algérie, De Gaulle avait reconnu au fond la légitimité du quelque part du combat des Algériens, à partir du moment où on parle d'autodétermination. Donc c'est une chose très bizarre, effectivement. Ça ne ressemble pas aux autres guerres, bien entendu. Ça ressemble pas aux guerres mondiales, aux guerres européennes, et ça ne ressemble pas non plus à la façon plus franche dont la mémoire de la décolonisation de la Tunisie et du Maroc, et bien entendu de la Syrie et du Liban, c'est fait, c'est-à-dire c'était des protectorats ou des mandats, et puis finalement on décide que oui, on a assez protégé, on a rempli le mandat qui était de conduire le pays à l'indépendance, et puis voilà. Tandis que l'Algérie, effectivement, ça, tout commence par un déni de la colonisation. Ce n'est pas une colonisation, on est dans un vide et on remplit ce vide. C'est une colonie de peuplement, et finalement, les Algériens étaient presque des sous-hommes sous la colonisation, considérés comme tels. Donc c'est tout ça qui revient, tous ces traumatismes.
Vous évoquiez à l'instant ces protectorats. On voit bien aujourd'hui en Palestine, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, comment ce mandat, ce protectorat britannique à l'époque sur la Palestine a débouché aujourd'hui sur quelque chose qui est ingérable entre ces deux peuples. Comment quelque part les racines de ce conflit tiennent à des frontières qui ont été tracées de manière totalement arbitraire. On pourrait aussi d'ailleurs évoquer ça, on n'est plus tout à fait en Méditerranée, mais à propos du conflit entre l'Iran et l'Irak.
Oui. En tout cas, en ce qui concerne le conflit, l'interminable conflit israélo-palestinien, c'est dû au fait que vous avez tout à fait raison de rappeler que les frontières des mandats qui succédaient à l'Empire ottoman ont été découpées, charcutées même, on pourrait dire, par les puissances qui avaient gagné la guerre contre la Turquie. Et c'est pas du tout comme le Maghreb. Le Maroc, la Tunisie existaient, ils ont été à peu près conduits à devenir indépendants dans leurs frontières, et puis l'Algérie, c'était le reste, le Maghreb central, et de toute façon, donc il y a eu des conflits de frontières en fait après, entre par exemple entre le Maroc et l'Algérie, mais c'est mineur par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, au Mashrek, où le fait que par exemple la Palestine déjà soit détachée de l'ensemble syro-libanais, que l'Irak soit donné comme mandat à la Grande-Bretagne dans ses frontières actuelles n'avait rien d'évident. La France voulait Mossoul, etc. La France aurait voulu avoir un mandat complet pour des raisons à la fois économiques, mais aussi presque religieuses, etc. Les lieux saints. Et puis alors, évidemment, il faut toujours rappeler que concernant le mandat palestinien, Virginien, ça se complique du fait que les Anglais avaient fait des promesses contradictoires à des acteurs différents. Ils avaient fait la déclaration Balfour en 1917, donc la lettre de Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères, à Chaim Weizmann, représentant de l'Organisation sioniste mondiale, etc. La Grande-Bretagne envisage un foyer national juif en Palestine. Alors un foyer national, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est préparatoire à un État ? Est-ce que c'est simplement un lieu de refuge ? Déjà, il y avait une ambiguïté. Puis d'autre part, il y avait des promesses qui avaient été faites aux Hachémites, etc., qui étaient donc une aristocratie tribale venant d'Arabie, à qui on avait promis finalement non seulement la Palestine, mais un royaume qui aurait couvert tout le croissant fertile. Et ces promesses étaient contradictoires. Et pendant toute la période du mandat, naturellement, les sionistes, les juifs, etc., s'appuyaient sur la déclaration Balfour pour dire ce mandat est préparatoire à un futur état juif. Et au contraire, les Arabes de Palestine voulaient qu'il y ait des institutions comme il y en avait, par exemple, en Irak. Donc, il y a une duplicité, il y a une énorme responsabilité britannique, comme il y en a par rapport au drame indo-pakistanais. Hein, c'est la, il faut quand même rappeler, même si c'est un peu périphérique, que si le Pakistan existe, c'est parce que une des raisons, naturellement, il y a peut-être une aspiration des musulmans de l'Inde à avoir l'État, mais cette aspiration a été grandement encouragée par le fait que, tout simplement, les Britanniques ont joué ce nationalisme musulman contre le parti du Congrès qui, avec Gandhi, envisageait un État indien plurireligieux, ce qui aurait sans doute peut-être été préférable. Et or, si on prend la Palestine et on prend le subcontinent indien, on a deux brûlots qui menacent encore aujourd'hui la paix du monde, puisqu'on est en train de parler de guerre et paix. Voilà des héritages guerriers en puissance qui tous les jours montrent leur nocivité.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'Empire ottoman. Peut-être on pourrait quelques instants revenir sur ce que furent les guerres d'empire, disons du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Quelles étaient les raisons et les facteurs d'opposition entre les empires d'Orient et les empires d'Occident, l'Empire ottoman et le Saint-Empire romain germanique?
Alors bien sûr,
Daniel Lindenberg.
Il y a d'abord des oppositions. Il y a l'héritage de l'Empire par excellence, l'Empire méditerranéen, l'Empire mondial qui avait été l'Empire romain. On peut dire que à une certaine époque, en fait, il y a deux empires mondiaux, les empires chinois qui commencent à exister à ce moment-là, et puis l'Empire romain. Puis après l'Empire romain, il y a la fracture au départ qui n'est qu'une fracture dynastique, un partage de l'Empire entre Empire d'Orient et Empire d'Occident, mais ça menace redouble très vite d'une vraie fracture culturelle et religieuse, puisqu'en réalité, on a un empire latin à l'ouest, empire d'Occident, et puis un empire grec et qui va devenir orthodoxe, puisque il n'accepte pas la tutelle romaine, la tutelle du pape. Mais il faut tout de suite ajouter que cet empire romain d'Occident va disparaître. Il y a des tentatives récurrentes de le ressusciter, venant justement de ceux qui ont détruit l'Empire romain, en gros ceux que les Romains appelaient les barbares germaniques. Donc on a l'Empire de Charlemagne, très éphémère, et puis ensuite au Xe siècle de nouveau ce fameux Saint-Empire romain germanique qui va durer jusqu'en 1806, hein, c'est Napoléon, parce que lui-même veut être un empereur d'Occident moderne, mais issu de la Révolution française. Ah, ça, c'est effectivement le destin des empires qui se font la guerre déjà. Par exemple, on dit assez peu, trop peu, que ceux qui ont vraiment détruit l'Empire de Byzance, l'Empire grec, bien avant les Turcs, ce sont les Latins, enfin les Occidentaux. C'est le sac de Constantinople en 1204 qui marque vraiment le début de la fin pour l'Empire byzantin. Mais le vrai choc, effectivement, ce sont les empires qui se font la guerre à partir d'une différence religieuse beaucoup plus marquée. Il y a la naissance de l'islam, et c'est le moment de rappeler effectivement que tout empire est fondé sur la conquête. Hein. Un empire, c'est une formation politique qui est basée sur la conquête militaire, qui n'est pas basée sur une ethnie, même s'il y a une ethnie dominante, etc., mais qui dépend entièrement, et là on rejoint aussi le propos de la guerre, c'est vraiment le sort des armes. Quand un empire ne conquiert plus et au contraire se heurte à des conquérants plus jeunes, eh bien il disparaît. Alors, il y a eu donc cet empire arabe à partir du 7e siècle de Mahomet, etc., qui s'est développé, mais qui a connu le même sort que l'empire de Charlemagne, qui s'est divisé. Il y a eu les Abbassides, les Omeyyades, et puis il y a eu en Afrique du Nord, en Égypte, etc., des empires chiites. Ça, on a oublié les Fatimides, etc., qui ont dominé toute l'Égypte et l'Afrique du Nord. Et puis il y a eu justement les Omeyyades de Cordoue, ce qu'on a appelé l'Andalous, etc., mais qui s'est évidemment très vite morcelé. Alors j'en arrive à l'Empire ottoman qui s'est fondé sur le déclin des empires arabes et sur la conquête progressive de ce qui restait de l'Empire de Byzance. C'est-à-dire l'Empire ottoman a voulu finalement non seulement conquérir Constantinople, mais tirer sa légitimité du fait que au lieu même où était l'Empire ottoman, à Constantinople devenu Istanbul, eh bien c'était toujours le même type d'empire, et les historiens ont montré qu'il y a une forte continuité, y compris dans l'organisation de l'empire, de la cour, etc., des continuités assez fortes entre les deux empires. Et puis même quelque chose dans l'Empire ottoman a subsisté, puisque les orthodoxes, à travers ce qu'on a appelé le système du millet, hein, c'est le système de l'Empire ottoman, auto-administration des chrétiens et plus tard des arméniens, des juifs, etc., même certaines mesures des arabes, c'est-à-dire que tout le monde obéit à l'empire, paye l'impôt, accepte la conscription de donner des soldats, mais pour le reste, il y a une très large autonomie, évidemment pour le droit civil, mais même parfois pour l'administration tout court de provinces entières. Et donc, il faut dire que jusqu'au XIXe siècle, cet empire a été extrêmement tolérant, et beaucoup d'intellectuels, par exemple arabes ou turcs aujourd'hui, qui voient l'état actuel du Moyen-Orient, curieusement éprouvent une certaine nostalgie pour cet empire. Ils enjolivent le tableau, parce qu'en fait, cet empire était aussi très dur. Le despotisme, hein, quand Montesquieu, dans L'Esprit des Lois, veut expliquer ce que c'est que le despotisme, il prend l'exemple de l'Empire ottoman et après il dit Louis XIV c'est trop proche, etc. Enfin bon, donc il y a une idée comme ça en Occident très contradictoire de l'Empire ottoman parce qu'il est despotique mais en même temps il est tolérant. Par exemple, quand les Juifs ont été, pour un exemple, expulsés d'Espagne, où ben ils ont trouvé refuge, un très bon accueil dans l'Empire ottoman.
Des empires multiculturels, donc on vient de voir à l'instant comment le bassin méditerranéen a été l'objet, le terrain de conflits, de guerres d'empires. À ces guerres d'empires ont succédé ensuite les revendications nationales, la création et l'apparition des États-nations. Et on revient à ces guerres qui sont intervenues au début de cette deuxième moitié du XXe siècle, ces guerres de décolonisation. Aujourd'hui encore, on l'a évoqué tout à l'heure, un grand sentiment de frustration de part et d'autre, bien que ces conflits se soient éteints, un grand sentiment de frustration subsiste, et on a même l'impression que, quelque part, de part et d'autre, cette frustration continue à alimenter les propos des droites et des extrêmes droites. Alors peut-être, comment est-ce que la décolonisation, par exemple du Maghreb, continue encore aujourd'hui à alimenter les propos de l'extrême droite en France? Daniel Lindenberg, vous êtes historien des idées, je pense que c'est un domaine qui est tout à fait le vôtre.
Oui, alors c'est dû à quelque chose qui est assez spécifique, c'est la décolonisation de l'Algérie et donc la présence en France de beaucoup de ceux qu'on appelait jusqu'en 1962 en Algérie les pieds noirs, c'est-à-dire les Européens d'Algérie, donc considérés et assez juste titre quand même par les Algériens comme des colons qui avaient pris les meilleures terres, qui jouissaient de privilèges de toutes sortes, juridiques, politiques, et donc on sait que la guerre d'Algérie s'est terminée. Les accords d'Évian en 1962 prévoyaient que les Européens, les non-musulmans pouvaient rester en Algérie à condition d'accepter d'être les sujets d'un État souverain. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus parce que ce serait extrêmement long, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, 1 million de ce qu'on a appelé les rapatriés sont venus en France, mais accompagnés par des gens qui n'étaient pas des rapatriés à proprement parler. Les Juifs d'Algérie qui vivaient là depuis toujours sont partis en immense majorité aussi. Et un certain nombre d'Algériens qui avaient été pendant la guerre pour des raisons complexes, là aussi c'est un enjeu de mémoire, il faut pas tout ramener à l'idée que c'était des collaborateurs, bon c'est le problème en particulier des harkis, etc. Ces harkis qui continuent en France à développer aussi une, vous parliez des mémoires, des revendications, ben sont des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile, en particulier au niveau mémoriel, parce que ils en veulent aux Français, au gouvernement français. En même temps, ils en veulent aussi aux Algériens, au FLN, qui les a massacrés, etc. Et ils ont des problèmes identitaires très forts. Par exemple, on sait, les sociologues ont montré que parfois, parmi les jeunes qui se laissaient tenter par l'islamisme le plus radical en France, il y avait des fils ou des filles de harkis, parce que justement, c'est une façon pour eux de retrouver une identité qui ne soit pas nationale. Bon, je ferme cette parenthèse, mais la droite et l'extrême droite, donc ça a commencé effectivement par le Front National, donc c'est créé une demande, comme il arrive souvent en pareil cas, de réécriture de l'histoire, mais sans arrêt une histoire révisionniste de la colonisation qui était au fond centrée autour de ce thème. La colonisation n'était pas ce que vous croyez, il y a eu des bienfaits, tout le monde en a profité, on a ce pays était complètement arriéré et donc on l'a développé et finalement ça s'est aussi nourri d'un bilan de l'indépendance qui naturellement n'est pas toujours glorieux. Donc il y a cette chose qui aboutit au débat de 2005 sur cette loi, enfin cet amendement passé un peu en catimini, mais enfin sur les mérites de la colonisation. Alors là, ce n'est plus une droite, une extrême droite marginale qui est, c'est l'UMP, c'est la droite française dans sa majorité. Alors ensuite, Jacques Chirac a fait le nécessaire pour que cette loi finalement ne soit pas promulguée parce que lui y était hostile. Mais on se rend compte que avec la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 et ensuite donc ce qui a suivi, on voit que ça devient une idéologie officielle d'État. On dit pas que il faut réviser l'histoire, on dit il faut moins se repentir. On n'a pas à se frapper la poitrine sur des crimes imaginaire de la colonisation. La France n'a rien à se reprocher, dit Nicolas Sarkozy dans plusieurs de ses discours.
The other, une diaspora dans la diaspora, become the reference of the self.
Essayez de comprendre le monde autrement qu'avec une seule vision. Voilà.
C'est la diaspora. C'est l'extraordinaire diversité ethnique, culturelle, religieuse, sociale.
Les immigrants de tous les pays.
Où ils viennent
de tous les pays.
C'est la diaspora.
Par exemple, quand je serai vieux, j'espère que je serai vieux à Marseille.
C'est France, mais
la city.
J'ai pas de lieu.
Tu es diaspora dans la diaspora. L'identité est une fiction. Le couscous du Shabbat. C'est la diaspora.
Boy, girl, man, woman, everybody.
Après la colonisation, on va maintenant parler de post-colonisation et même de néocolonialisme. Un néocolonialisme qui se situe notamment à ses frontières. Et pour ça, on va tout de suite appeler Michel Peraldi à Rabat, au Maroc. Après les guerres à l'extérieur et puis aussi les conflits qui naissent à l'intérieur de nos espaces politiques, comme on vient de l'évoquer à l'instant avec Daniel Lindenberg, parlons maintenant de cette zone frontalière qui est elle aussi facteur de conflit. La période post-coloniale a été marquée dans un contexte de prospérité économique, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, par un fort appel aux migrants pour reconstruire et moderniser les infrastructures économiques de l'Europe. Des centaines de milliers de migrants sont venus ainsi alimenter les industries européennes, au détriment sans doute du développement des pays d'origine de ces migrants. Puis, à la fin des années 70, virage à 180 degrés, avec le choc pétrolier et la crise, fermeture des frontières et limitation drastique des flux migratoires. Michel Peraldi, ce double mouvement de pompe, aspiration et refoulement, est-ce qu'il n'est pas à l'origine d'une grande partie du ressentiment à l'encontre des pays européens et de leur vision très utilitaire d'une main-d'œuvre traitée comme du bétail. Un jour je te prends, un jour je te jette. Michel Peraldi sur les politiques d'immigration.
Oui, sans nul doute. Hein. Il est évident de toute façon que les politiques migratoires sont aujourd'hui une des épines dans les pieds ou dans les doigts des pays dans leur relation avec l'Europe. Ça, c'est évident. Le problème est double, c'est que à la fois il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on prend, on jette, les politiques migratoires sont des politiques de main-d'œuvre, mais je dirais même à la limite aujourd'hui, c'est même pas ça qui se passe, c'est-à-dire que on a l'impression que précisément les pays européens sont incapables d'avoir des politiques migratoires. Il y a aujourd'hui, je crois, y compris une disjonction entre l'organisation politique des phénomènes migratoires et tout simplement la demande économique et sociale autour des phénomènes de mobilité.
Aujourd'hui, vous parlez volontiers, Michel Peraldi, de guerre aux migrants à propos de l'ensemble des dispositifs protectionnistes qui verrouillent les portes de l'Europe et notamment l'entrée dans l'espace de Schengen. Un bouclage qui affecte non seulement la circulation des travailleurs, mais aussi celle des étudiants, celle des artistes, celle des chercheurs. Bref, la circulation des idées aussi est affectée par cette fermeture. Ça veut dire des milliers de drames individuels et ça veut dire aussi un immense drame collectif, celui de la méconnaissance. Une méconnaissance qui favorise toutes les idées reçues et la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, c'est la racine même du conflit, de la guerre.
Oui, tout simplement parce que, précisément, encore une fois, la disjonction aujourd'hui, elle est liée au fait qu'on circule. C'est-à-dire que entre l'Europe et la Méditerranée, je pense à l'autre rive de la Méditerranée, on a des relations de voisinage. Et on a des relations de voisinage dans un monde dans lequel la mobilité est devenue un instrument stratégique. Je prends simplement un petit exemple très banal. Il y a aujourd'hui, à travers les migrations fordistes qui se sont installées en Europe dans les années 50 aux années 70, ces migrations sont devenues des classes moyennes, des gens qui sont à l'aise, qui vivent à l'aise dans leurs appartements et leurs baskets, et qui ont avec leur pays des relations qui sont des relations quotidiennes avec leur pays d'origine, je veux dire. Tout ça favorise la mobilité, je veux dire, y compris parce qu'aujourd'hui les moyens techniques de mobilité sont extrêmement développés. Je veux dire, c'est aujourd'hui extrêmement facile pour un Marocain de Bruxelles ou pour un Marocain de Paris ou pour un Algérien de Marseille, encore mieux, d'aller en Algérie à peu près aussi facilement qu'il va à Montpellier ou qu'il va qu'il voyage en France. Donc la mobilité aujourd'hui est une dimension très banale de notre vie quotidienne, et précisément le blocage des frontières tente de l'empêcher. Donc il y a quelque chose là d'extrêmement paradoxal et je pense d'extrêmement violent dans la manière dont les choses s'organisent. C'est un grand paradoxe de notre monde moderne, je dirais.
Et cette violence, elle est précisément perçue comme un état de guerre.
Ah ben tout à fait, puisque il est très clair aujourd'hui qu'un certain nombre de polices font sinon la guerre pour ne pas trop en faire, mais je veux dire au moins la chasse aux migrants, ça c'est très clair.
Et la pratique de ces polices est vraiment totalement belliqueuse là pour le coup et extrêmement violente.
Bien sûr.
Vous en avez recueilli, j'imagine, quelques témoignages.
Bien sûr, aux frontières, y compris aux frontières internes aujourd'hui du Maghreb, voire de certains pays d'Afrique, les polices, y compris des pays d'où sont originaires les candidats à la migration, sont extrêmement violentes avec les candidats à la migration. Le paradoxe et le problème qui est en train de se former aujourd'hui, c'est que à force de contraindre les mouvements migratoires, à force de leur imposer des conditions extrêmement draconiennes, drastiques, à force de laisser parler le discrétionnaire, on est en train de créer une sorte de prolétariat errant qui est installé entre l'Afrique et l'Europe, qui se promène, etc. C'est à celui-là qu'on fait la guerre, hein. Je veux dire, aujourd'hui, un élève ingénieur marocain, algérien, tunisien, qui veut poursuivre ses études en France, a absolument aucun problème. Il le fait parfois avec des bourses de son pays, etc. Et il n'est absolument pas dans une situation de difficulté. Ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, ceux à qui on fait la chasse et la guerre, sont précisément ce prolétariat flottant que par moment on peut utiliser et que par moment, précisément, on laisse flotter, errer dans cette espèce de subcontinent aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique. Il y a aujourd'hui à Bamako des camps, des bidonvilles, des ghettos extrêmement précaires qui sont habités par tous ceux que précisément l'Europe a refoulés vers le Mali, puisque le Mali est une des destinations de refoulement quand on attrape les gens à la frontière.
Fanatisme contre islamophobie, néoconservatisme contre obscurantisme, les clivages qui obscurcissent les relations entre les deux rives de la Méditerranée ont souvent la religion comme prétexte. Michel Peraldi, vous vivez et vous travaillez à Rabat, au Maroc. Comment est-ce que vous voyez évoluer la société marocaine entre montée de l'islamisme et modernisation progressive du pays sous le règne de Mohamed VI ?
Je serais obligé de ne pas être complètement d'accord avec votre analyse, parce que je ne vois pas le Maroc comme un pays dans lequel se développe l'islamisme radical. Qu'il y ait un phénomène d'islamisme radical, oui, d'autres...
Il y a eu quelques événements qui ont surpris...
Bien sûr, mais je veux dire, l'existence de ce genre d'événements n'atteste pas d'un embrayage de la société, et de la société marocaine, et y compris de la société marocaine religieuse sur ce phénomène. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, loin de là. Ce que je peux dire, c'est que, je dirais presque en citadin, quoi, hein, de mon vécu de la société marocaine, c'est une société qui est en train de se complexifier, comme toutes les sociétés développées aujourd'hui, et qui se complexifie en se segmentant, voilà, si je fais une petite analyse sociologique. Donc, Il y a un contexte général au Maroc de religiosité, c'est-à-dire que mais cette religiosité elle-même évolue, elle se modernise, etc. Et l'islamisme radical n'est qu'un des éléments parmi d'autres évolutions de la religiosité au Maroc. Donc quand on vit ici, on est à la fois confronté effectivement à ce développement d'un islamisme radical, mais qui est très contenu, qui est très limité à certains mondes, à certains univers, et qu'on ne voit pas quotidiennement dans la vie quotidienne au Maroc. Et puis d'autres formes de religiosité qui sont, elles, pour le coup, tout à fait praticables, tout à fait banales, je dirais, tout à fait vivables. Le problème fondamental, qui n'est pas celui du Maroc, le problème fondamental de ces pays, c'est la relation entre la religion et le politique. C'est pas l'existence en soi d'un phénomène religieux, probablement plus présent, plus banal et plus quotidien que dans nos sociétés laïques européennes. Mais le phénomène religieux en soi n'est pas un problème. Le problème, ce sont les relations diverses, multiples et complexes entre le politique et le religieux.
Une relation particulièrement complexe, ceci dit, au Maroc, puisque le roi de ce pays est en même temps un dignitaire religieux.
Bien sûr, mais probablement que ce fait-là est aujourd'hui une des garanties politiques les plus évidentes pour éviter un certain nombre de dérapages politiques, c'est évident.
Comment perçoit-on au Maroc ce choc des civilisations? Je mets évidemment tous les guillemets nécessaires autour de cette formule à l'emporte-pièce.
Moi, je dirais comme une fiction et comme une injustice. Voilà. Je ne pourrais pas le dire mieux. Je pense que cette idée d'un choc de civilisation est une fiction politique inventée à un certain moment de radicalisation en Occident d'un certain nombre de phénomènes. Moi, je ne vois pas de choc de civilisation. Je veux dire, je vois encore une fois de la mixité, du brouillage, des relations de voisinage complexes, compliquées. Je suis en train de lire, c'est factuel, mais je suis en train de lire un très beau livre de Jocelyne Barclia qui s'appelle Lingua Franca et qui relate pour l'époque du 15e au 18e siècle l'intensité des relations en Méditerranée, intensité des relations économiques, sociales, etc. Tellement intense qu'il avait fallu s'inventer une langue pour pouvoir se parler dans le cadre de ces relations. Et qui dit, à cette époque, il dit, moi je trouve qu'il y a une phrase merveilleuse, elle dit, on parlait une même langue, mais on parlait pas d'une seule voix. Mais je crois qu'on est encore toujours dans ces mêmes types de phénomènes. Je veux dire, on peut parler plusieurs langues d'ailleurs, qu'on partage. On parle pas d'une seule voix, mais ceci dit, on partage beaucoup de choses. Donc moi je ne crois pas au choc de civilisation. Je pense que c'est une des inventions intellectuelles de ces 15 dernières années qui fait le plus de mal à la vie dans les pays méditerranéens, sur l'une ou sur l'autre rive d'ailleurs.
Le choc des civilisations, une fiction inventée par l'Occident pour asseoir sans doute les néoconservateurs qui sont parfois au pouvoir dans un certain nombre de pays et très récemment notamment dans l'Empire américain jusqu'à il y a peu. Merci beaucoup Michel Peraldi de nous avoir un petit peu remis les choses à leur juste place.
Oh, Marie, Guma, Marie. Oh, Marie, Guma, Marie. Marie, la, la, mi, muna, soldat. Oh Mary, la la, di buda soldati Oh Mary, du ma du Mary. Oh Mary, du ma du la la, di buda soldati Oh Mary, la la, di buda soldati
Sinabulal habashi la tulaw alayhi Sinabulal habashi la tulaw alayhi
Conservatisme, sans doute une influence de l'américanisation idéologique de l'Europe, à la peur de l'islamisme cristallisée par les attentats du 11 septembre, on a vu se développer aux USA et en Europe un néoconservatisme qui prend parfois la forme d'un rappel à l'ordre, un ordre qui n'est pas sans rappeler les pires années du fascisme, exaltation de la virilité, des vertus militaires, du travail, propension au racisme et à la détermination des individus par leur gène, autant d'inquiétantes dérives. Daniel Lindenberg, comment en sommes-nous venus à porter au pouvoir des Bush, des Sarkozy ou des Berlusconi? Pourquoi est-il de bon ton aujourd'hui de dénigrer les artistes, les chercheurs et les intellectuels? Est-ce le modèle américain qui nous imprègne au travers de la société du spectacle qui nous baigne?
Je crois que... Le modèle américain, pour certains, a été effectivement important, enfin, parce que ça, la fascination pour les États-Unis, d'ailleurs pour des formes tout à fait différentes, parce qu'après tout, la génération de 68 auquel j'appartiens a été aussi très influencée par la contre-culture américaine, hein, par Bob Dylan, que par tous les gens de, au fond, du mouvement des campus. Je crois que ça a joué, mais il y a des racines indigènes, endogènes, hein, en Europe. Alors pourquoi il y a un certain nombre de gouvernements, effectivement, c'est dû à, je pense que c'est si ces nouvelles droites ont pu s'implanter, obtenir des succès électoraux et réaliser leur programme, c'est aussi en raison d'une crise de la gauche dure depuis longtemps et qui a été aggravée par effectivement la fin du communisme et le coup de génie de ces gens-là dont on parle, des néoconservateurs ou assimilés, c'est d'avoir fait qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Puisque les communistes parlaient d'égalité, il faut plus d'égalité. Puisque les communistes disaient qu'il faut promouvoir la culture, etc. Donc c'est suspect. Ça veut dire qu'on veut faire une culture d'État et donc il faut tout privatiser. on voyait des gens dans ce camp-là qui disaient mais la France est un pays soviétique, c'est une société d'assistés, etc. Comme donc en réalité, il y a eu contagion de l'anti-communisme à tout ce qui pouvait ressembler à un idéal de justice sociale, d'émancipation, etc. Puisque vous faites allusion effectivement à mes réflexions d'il y a déjà, qui datent déjà d'il y a quelques années.
Le rappel à l'ordre, oui, c'était en 2002.
C'était en 2002, et donc à ce moment-là, il me semblait déjà qu'on assistait à ce que j'appelais une levée des tabous. Ça veut dire que ça n'empêchait pas qu'il y ait du racisme, ça n'empêchait pas qu'il y ait de la misogynie, de l'homophobie, de toutes sortes de choses. Mais il y avait un certain nombre de comportements, de paroles, surtout, qui étaient clandestins, dont on avait honte. Et il y a un certain nombre d'intellectuels, et ça c'est au tournant justement du siècle, à partir de la fin des années 90, on constate que il y a un certain nombre de gens qui disent justement tout ça c'est du politiquement correct, tout ça c'est de la pensée unique, il faut lever les tabous, faut appeler un chat un chat, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'appeler un chat un chat, dire il y a trop d'immigrés, l'insécurité ça vient d'eux, c'est eux qui, c'est-à-dire des choses qu'on entendait déjà depuis des années, mais c'était dans le discours justement du Front National. Et brusquement, c'est plus le Front National qui dit ça, sont des intellectuels parisiens qui ont une légitimité et surtout qui ont accès aux grands médias, y compris des médias, disons, progressistes, de gauche, etc., et qui tranquillement posent ces questions. Je donnerai un exemple qui est relié à la première partie de notre entretien sur la culpabilité coloniale. Vous avez monsieur Pascal Bruckner qui publie Le sanglot de l'homme blanc. C'est-à-dire pour dire, il y en a marre de ce tiers-mondisme, il y en a marre de cette culpabilité quant à la colonisation. C'est-à-dire c'est le discours, en fait, de l'extrême droite et de cette droite qui fricote avec le Front National, mais recyclé en langage post-structuraliste, donc il dit ça avec beaucoup d'élégance, et cette élégance n'est pas la grossièreté d'un Jean-Marie Le Pen, etc. Ça fait que on dit mais oui, bien sûr, on n'est pas forcément d'accord, mais il faut discuter, oui peut-être. Et puis par exemple, il y a ce qui s'est passé, et ça c'est immédiatement, c'était même pendant que j'étais en train d'écrire ce petit bouquin, quelque chose qui m'a horrifié. C'est la réaction aussi d'un certain nombre d'intellectuels qui ont fait une analyse, d'ailleurs à mon avis complètement fausse, en disant la défaite de Lionel Jospin vient du fait qu'il a été naïf quant au problème de l'insécurité. Et brusquement, le thème de l'insécurité, c'est-à-dire insécurité égale immigration, thème aussi qui faisait les beaux jours de l'extrême droite depuis 15 ans, est devenu un thème de discussion dans les salons parisiens, dans le Nouvel Observateur, dans partout, etc. Est-ce qu'on n'a pas été naïf? Et c'est ça que, au fond, qui me paraît être le marche-pied sur lequel se sont appuyés des gens, parce qu'on pourrait faire la même analyse en Italie, sont appuyés des gens comme Sarkozy et Berlusconi pour venir au pouvoir.
Et c'est la banalisation de ces idées de droite et d'extrême droite, cette extrême droite en bas de soi qui aujourd'hui court dans les salons littéraires et intellectuels. Je crois que vous aviez particulièrement dans votre ligne de mire des gens comme Finkielkraut, comme Marcel Gaucher, comme Luc Ferry. C'est cette banalisation-là qui fait aujourd'hui que de manière tout à fait subreptice, on est tout à fait d'accord à envoyer des troupes, les troupes françaises de par le monde, censément pour pacifier, mais aussi en même temps pour faire la guerre, hein, concrètement. C'est à ça que sert l'armée. Et c'est ça, cette banalisation-là, qui risque aujourd'hui ou demain, dans un très proche avenir, d'être facteur de guerre.
Oui, en tout cas, c'est déjà facteur de guerre, guerre des mots, guerre des idées, qui fait qu'il y a des passages à l'acte, que, par exemple, si l'insécurité est le problème, on voit la police et la justice en France qui ont jamais été exemplaires, hein, par rapport en particulier aux classes populaires, mais ce qu'elles se permettent maintenant, on le voit tous les jours, parce qu'elles sont confortées, enfin certains éléments, moi je jette pas l'opprobre sur des corps entiers. Hein. Il y a des policiers, il y a des juges qui sont très bien, etc. Mais on voit un certain nombre de dérives. Et c'est la même chose sur la politique extérieure. Cette idée de guerre au terrorisme, sans voir, effectivement, on vient d'avoir la discussion, avec Peraldi sur le Maroc, etc. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est ce que Mohamed Tosi, je l'ai encore entendu hier soir le dire, c'est qu'il faut quand même s'interroger aussi sur quel terreau se développe le terrorisme, ce qui n'est pas l'excuser, qui n'est pas le fait qu'il faut absolument le laisser faire, mais effectivement, cette idée, ça conduit à des comportements de guerre qui sont parfois effectivement des expéditions coloniales. Moi, sur par exemple, sur la guerre contre les talibans, je suis partagé parce que quelque part, je me dis aussi, c'est pas non plus des gens très fréquentables, etc. Mais quand je vois que les officiers français en Afghanistan disent eux-mêmes, et ça je les ai entendus le dire par le biais de la télévision qui de temps en temps est utile, on applique les leçons de la guerre d'Algérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des bougnoules, effectivement.
On peut imaginer que quand les Algériens entendent ça, qu'ils en soient effectivement totalement sauvés.
Ah oui,
quoi.
Alors là, ça les guérit, même s'ils avaient la moindre tentation de vouloir participer à la guerre mondiale contre le terrorisme, je peux vous dire que là, c'est terminé. Parce que si, effectivement, les talibans, c'est comme hier les Fellahs, d'abord, c'est un service à rendre aux talibans, parce que, effectivement, à ce moment-là, c'est une... Ils mènent une lutte juste, effectivement, contre l'étranger. Puis en même temps, c'est un peu ça aussi, d'où la complexité. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça commence effectivement par des propos à Saint-Germain-des-Prés, et puis ça se termine effectivement par des bombes. Des bombes qu'on lâche sur les populations, puis des bombes aussi qui éclatent dans les capitales occidentales.
Et des bombes médiatiques. On voit bien en tout cas que les raisons de la guerre, et on revient à ce qu'on disait au tout début de cette émission, c'est d'abord et avant tout la bêtise des déclarations de certains. Aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est l'extrême faiblesse des diplomaties face aux intérêts économiques qui sont en jeu. Un des grands facteurs de guerre aujourd'hui, ça n'est pas tant les conflits pour des raisons de conquête, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure à propos des empires ou à propos des états-nations. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est l'économie, c'est le pétrole. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, selon vous, Daniel Lindenberg, définitivement la disparition de l'État au profit des multinationales et au profit, c'est le terme.
Oui, écoutez, c'est un risque permanent. Moi, j'ai été élevé là-dedans. On parlait déjà dans les années 60 des multinationales et des menaces que ça faisait peser sur effectivement la souveraineté des États, tant la souveraineté des nouveaux États que des États anciens. Je dirais. Là, je vais peut-être botter en touche par une espèce de boutade. Toute façon, le pétrole, il y en aura bientôt plus. Et l'argent, on voit aussi qu'il devient, même dans les économies occidentales, il devient rare, voire les problèmes des banques. Je crois, de toute façon, on entre dans une... Avec cette crise qui a commencé l'été dernier, on entre dans une nouvelle époque où il n'est pas sûr que... il n'y ait pas simplement de la part des grands pays occidentaux, des réactions de survie qui n'en sont pas moins menaçantes aussi. Parce que, de toute façon, ils sont plus seuls. Il faudrait parler, effectivement, de l'Inde, de la Chine, du Brésil, etc. De ce qui n'est plus, ce sont plus des États émergents, ce sont des grandes puissances économiques de demain. Donc ça, c'est effectivement un autre chapitre.
Il n'existe certainement pas de solution miracle pour désamorcer ces tentations au conflit, mais peut-être en forme de conclusion à cette émission, Daniel Lindenberg, quelques éléments, quelques pistes qui nous permettent d'avoir quand même confiance dans l'avenir et d'espérer que, au moins dans le bassin méditerranéen, on ne voit pas dans les prochaines années d'explosion de violence ou de guerre. Les raisons de la paix.
Oui, Alors les raisons de la paix, c'est que de toute façon, je pense effectivement plus à l'ouest du bassin méditerranéen. On a des peuples qui accèdent de plus en plus à la modernité. On a quelque chose, une évolution qui justement montre que les bêtises. Vous avez tout à fait raison de parler de la bêtise, des bêtises qu'on nous raconte sur ces sociétés, sur le rôle de l'islam, etc. Moi, je fais confiance à ces sociétés qui sont jeunes, qui sont en grande majorité composées de jeunes, de gens qui ont moins de 20 ans. C'est le cas au Maghreb, qui ont effectivement intérêt à la démocratie. Moi, je crois qu'un des plus grands chantiers, et je sais que mes amis de la pensée de midi y réfléchissent, y travaillent, c'est le soutien que nous, ici, qui sommes quand même encore dans une société libre malgré les dérives auxquelles est soumise la liberté d'expression et tous les acteurs culturels, c'est d'encourager la démocratie, c'est d'encourager un dialogue qui soit pas un dialogue de salon justement, mais un dialogue sans concession, et c'est de mener une contre-offensive contre ces gens-là, parce que je crois aussi que les intellectuels qui ne sont pas d'accord sont un tout petit peu frileux par rapport à après tout, cette dérive des nouveaux réactionnaires, elle a été menée par des gens qui n'étaient pas très nombreux, mais qui étaient décidés. À nous d'être aussi décidés et d'être aussi offensifs.
Merci Daniel Lindenberg pour continuer à réfléchir sur ce thème, guerre et paix en Méditerranée. Je vous invite bien entendu à lire le numéro de novembre de la revue La Pensée de Midi, intitulé « Désir de guerre, espoir de paix », où vous retrouverez des articles et des contributions de Daniel Lindenberg, de Michel Peraldi, de Mohamed Dozi et de bien d'autres, et de Thierry Fabre, bien sûr, rédacteur en chef de cette revue, qui est éditée par Actes Sud et disponible dans toutes les bonnes librairies.